France Musique. Les grands entretiens, Laurent Valero.
Bonjour, je suis Gustavo Beitelmann, musicien argentin de Paris. Pour moi, Piazzolla a été un modèle, comme pour beaucoup de gens de mon âge, des points de vue de son attitude face à la musique de tango. Parce que Piazzolla a été quelqu'un qui nous a beaucoup raffermis dans l'idée que c'était une expression artistique absolument valable et que ça valait la peine de donner sa vie pour cette musique. C'est ce que lui, il avait fait. Et donc, ça a encouragé beaucoup de gens comme moi qui cherchaient un or quelconque. Je n'étais pas perdu, mais j'ai cherché. Et donc, Piazzolla, pour moi, de ce point de vue-là, a été un modèle. Était moins un modèle de point de vue musical. La musique que je fabrique rend compte que les points de contact sont extrêmement éloignés. Oh, pas du tout, je ne suis pas un héritier de la musique de Piazzolla, du tout.
En termes de composition, non, mais par contre, par rapport au tango, et la grande question avec Piazzolla, c'est celle qu'on va aussi évoquer ensemble, c'est que Piazzolla, on lui a reproché toute sa vie d'être le fossoyeur du tango, vous en parliez dans une précédente émission,
oui.
Alors que lui disait qu'il n'y avait pas plus de tango que sa musique.
Ouais, et moi je suis plutôt d'accord avec lui. Bon, il y a deux, trois éléments qui comptent dans la vie de cette Argentine qui a été la nôtre, et de Astor. Astor était un provocateur né. Donc, il savait comment allumer les gens. Donc, lui, il avait cette religion de faire parler de lui par les bonnes ou les mauvaises manières. Donc, lui était capable de dire tout et son contraire d'un côté. De l'autre côté, lui, il avait secoué les cocotiers. Il avait fait avancer cette musique de pas considérable, mais les types qui vivaient à l'intérieur de cette musique se sont sentis aussi agressés que les musiciens de jazz avec Charlie Parker. Ni plus, ni moins. Ça a pris des décades avant que les gens puissent dire « Mais oui, lui, il est de la famille. »
Vous avez dit que vous n'avez pas de rapport esthétique tellement avec Piazzolla, vous n'étiez pas dans la filiation de la musique de Piazzolla. Par contre, vos parcours ne sont pas différents dans le sens où vous avez beaucoup été marqué par le jazz, comme lui l'a été dans son enfance à New York.
Ouais.
Et lui aussi avait des oreilles un peu très ouvertes comme ça sur plein de musique.
Je suis entièrement d'accord, Laurent. C'est une question dont je n'étais pas du tout conscient. Et une fois à un festival de musique de chambre à Moritzburg, qui est à côté de Dresde, un musicien m'a dit la même chose. Il m'a dit, mais pourquoi ça sonne différent ta musique, la musique de Piazzolla? Et comment tu peux le raconter? Et tout d'un coup, moi, j'ai pris conscience que le fond est commun. Il y a jazz, il y a tango, il y a musique académique. Je pense que c'est les proportions qui modifient l'écoute. Donc moi, je pense que Piazzolla a beaucoup plus de tango que moi, et moi, j'ai beaucoup plus de musique académique que lui. C'est curieux, non?
Ces expériences, cette tournée avec Piazzolla en 77, comment se passe le parcours? Parce que vous avez fondé à Paris un trio qui va avoir une très grande importance, qui va durer une douzaine d'années à peu près, qui va vous emmener un peu partout dans le monde, avec un autre très grand musicien argentin qui est le virtuose du bandoneon Juan José Mussolini, et un musicien français, le contrebassiste de jazz, Patrice Caratini. Et ce n'est pas un hasard si vous allez vers un musicien français, un musicien français de jazz.
Ah non.
Pour constituer ce trio, ah piano, bandoneon, contrebasse.
Avant ça, il y a eu un groupe qui a été bon, qui a fait un peu le lien entre les expériences comme l'octeto de Piazzolla, qui était le groupe qui s'appelait Tiempo Argentino, qui était un sextour.
Qui a été fondé à Paris également.
Si, qui a été fondé à Paris par des musiciens argentins et deux musiciens français, basse-batterie. Donc, mais qu'il y avait une idée qui était commune à l'époque, aux années 70, non? Parce que ça ne sonne pas pareil, mais les sons sont semblables aussi à un autre groupe qu'il y avait en Argentine qui s'appelait Génération Zéro de Rodolfo Mederos.
Le grand bandoneoniste.
Ouais, donc qui, au Mussolini aussi, faisait partie de Génération Zéro. Bon, bref, il y avait un son des années 70, non? Bon, après, je pense que moi, je me suis détaché très vite de ça, parce que je pense aussi que je n'ai pas trouvé une véritable solution, peut-être que je n'ai pas travaillé très sérieusement, de la présence de la percussion dans la musique que j'ai faite. Je restais toujours insatisfait et qui méritait, comme je disais, un travail d'approfondissement plus sérieux que ce que j'ai apporté. Donc, j'ai mis de côté tout ça.
Et donc, vous tournez vers l'idée d'un trio. Elle vient de qui, cette idée? Est-ce que ça vient de vous, Gustavo Beitelmann, Mussolini ou Caratini, ou les trois?
Non, de nous deux. Moi, je connaissais déjà Henri Texier.
Et oui, le grand contrebassiste, oui.
Et donc, j'ai parlé d'abord à Henri. Et Henri m'a dit, non, c'est pas moi. Il m'a dit, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui utilise beaucoup l'archet et je ne suis pas habitué. Donc, je ne pense pas que ce soit moi la personne dont tu as besoin. Donc, il me dit, par contre, téléphone à mon ami Patrice Caratini qui, sûrement, ça, il serait content de faire une expérience. Thank you. Patrice Caratini, c'est pas moi, pour moi c'était un nom, je sais pourquoi c'était un nom.
Et pourquoi?
Parce qu'à côté de chez Pons, à la rue Descartes, il y avait un club de jazz. Et moi, dans les années 77, fin des années 76, ou par là, j'ai passé les fois que j'allais chez les Pons, et dans ce bistrot, dont je ne me souviens pas comment ça s'appelait, il y avait un duo qui était Caratini-Fossé.
Pour moi, guitare contre basse.
Qui était Caratini-Fossé. Bon, qu'est-ce que je savais à l'époque qu'après j'allais devenir un copain de Caratini et de Fossé. Bref. Mais, simplement parce que j'ai passé par là et je voyais Caratini-Fossé. Donc il m'a dit, appelle Caratini de ma part. Voilà. Donc c'est comme ça que... qu'on appelle Caratini, qui justement, il me dit, ça tombe juste, j'ai le temps. Donc on a commencé à répéter, et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Patrice.
Mais alors, du coup, dans ce trio, qui était assez incroyable, parce qu'un trio où vous pouviez jouer des classiques du tango, comme la Bordona ou des choses comme ça, mais... et en même temps des choses de Charles Mingus. Mmh. Donc il y avait une musique que Caratini connaissait bien, j'imagine le jazz, évidemment. Et comment ça s'est passé, sa rencontre à lui, Caratini, avec la musique que vous et Mussolini connaissiez très très bien?
Parce que Patrice aussi est un large d'esprit. Donc lui...
Il connaissait aussi?
Il connaissait un peu Piazzolla. Et il connaissait aussi, parce que ça lui avait tapé l'oreille, à Troilo. Et s'arrêtait là. Mais il trouvait que ça lui plaisait. Donc il a commencé à répéter avec nous. Et je pense que ça lui a plu d'abord parce que il avait compris qu'il était un projet ambitieux. Donc un projet ambitieux où lui, il avait sa place. Autrement dit, c'était pas un projet dont on avait besoin d'un contrebasse.
Oui, c'est
on
ça.
Avait besoin de quelqu'un.
C'était pas un accompagnateur.
Non, pas du tout.
C'était pas ça, c'était trois solistes.
Oui. C'est ça, c'était autre chose. Donc je pense qu'il a senti, ou il a pressenti, qu'il pouvait occuper une place.
France Musique, les grands entretiens de Gustavo Bettelmann.
Alors justement, comment ça se passait dans ce trio qui a fait finalement assez peu de disques, mais des disques qui n'ont pas vieilli une seconde. C'est resté très contemporain comme image musicale. Comment ça se passe? C'était très écrit ou il y avait des parts données à l'improvisation? Je sais que le bandoneoniste Mussolini, lui, lisait une partition. Je vous ai vu, moi, à l'époque, il y a très très longtemps, jouer. Vous aussi, vous aviez une partition sous les yeux. Patrice Caratini était très attentif derrière sa contrebasse. Il y avait une part d'improvisation dedans ou pas?
Il y avait une part, mais pas une énorme part. Il y avait, je dirais plutôt, une part d'imprévu. Moi, ça me plaît plus que l'improvisation.
L'imprévu plutôt que l'improvisation.
C'est. Donc, on pouvait se surprendre. Mais, je veux dire, nous, on écrivait. Et ça s'est élaboré beaucoup. On avait trouvé un système de survie de groupe qui nous a réussi pendant plus de 12 ans de vie commune, qui était, pour tout, on fonctionnait à la majorité directe. Donc à trois, il y avait en général deux et un. Donc tout le monde perdait, tout le monde gagnait.
Comment ce trio Gustavo Beutelmann, qui a été très important dans votre carrière, a été reçu par le public à l'époque? C'était quand même, j'imagine, pour le public français, quelque chose d'assez nouveau.
Bah, le public français, moi, c'est une des expériences personnelles qui ont scellé ma vie aussi future, puisque je continue à vivre à Paris. Et ils ne sont pas demandé les papiers. Il y avait une qualité dans ce trio, c'est que ces trois gens qui les constituaient savaient où ils habitaient. Donc ils n'ont pas eu peur de se rapporter à des choses qui apparemment étaient loin de ce monde. On a fait ce que nous pensions qui était le mieux pour nous en tant que groupe, et on a donné ça et avec la plus grande franchise. Et donc, je dis, ça, pour moi, n'a pas de prix.
Alors, du coup, ça a été 12 années, vous disiez, Gustavo Beutelmann, ouais. de succès quand même, parce que des tournées, des concerts, beaucoup de concerts.
Ouais, on a joué plus de ce qu'on pourrait imaginer. Même moi. Je dis ça parce que quand vous tournez, non, la vie, vous regardez les années 80, par exemple.
Il y avait beaucoup de concerts.
Il vous semble comme... ou que vous êtes amené à raconter, non, notamment, par exemple, avec des gens comme mes élèves à Rotterdam, qui ont 22 ans, 20 ans. Ils me disent, mais maître, et vous, comment vous arriviez à travailler? Et je dis, écoute, on allait pour 25 concerts en Allemagne. Pardon? Il dit, si, on allait pour 25 concerts. On faisait peut-être... c'est pas un mois, 6 jours sur 7, disons, on jouait. Et le septième jour, c'était pour passer d'une région à une autre, donc on faisait le voyage. Bon, ça, on a du mal à croire, puisqu'on jouait le même répertoire qu'on jouait partout. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on adaptait le répertoire pour une ville de 10 000 habitants et une autre pour Hambourg, parce qu'on jouait à la fabrique d'Hambourg, qui était importante, et que toute l'avant-garde de la ville passait par là. Non, on jouait le même répertoire.
À l'époque, un trio comme ça, donc composé d'un bandoneon, d'un piano et d'une contrebasse, quasiment à égalité, je dirais, c'était quelque chose qui, même en Argentine, n'existait pas.
Non, je connais un antécédent qui sûrement a œuvré dans mes oreilles. Et un autre antécédent plus important que tout le monde peut me dire, ah oui, bien sûr, c'est comme ça. Donc le premier, c'est un trio qui avait Leopoldo Federico, Cavarcos et Berlinghieri, le pianiste, qui était un trio avec, comme on appelait en Argentine, dans le milieu, une parrilla organisada, une musique relativement improvisée avec des conventions. Donc, ça, vous pouvez l'entendre 10 fois de suite, et 10 fois de suite semble différente. Et ça me plaisait énormément. Et donc, je pense que ça a dû jouer un rôle quelque part dans l'oreille. Et l'autre, c'est Bill Evans.
Ah oui, pourtant, on n'est plus du tout dans le tango, là.
Non, mais moi, j'avais trouvé que les rôles de conversation en musique avec la percussion et la contrebasse me convenaient vachement bien. Pas comme modèle, parce que ça ne sont pas du tout pareils, mais comme objet d'étude, non, pour voir comment eux développaient. Après, je suis devenu très ami avec Chuck Israels, qui a passé 6 ans à jouer avec ce trio. Et Chuck me dit, écoute, pour te dire la vérité, on n'a jamais répété. Le seul qui travaillait les morceaux était Bill Evans. Donc il savait où il allait. Et après, nous, on s'est rencontrés à l'heure de jouer. Il disait, tel thème, telle tonalité, boum, et ça jouait. Non, et le reste, c'est sauf qui peut. Mais moi, je l'entendais si organisé, si fortement organique, tout ça, qui a joué un rôle, je pense, sur moi. Et, last but not least, la musique de chambre. Mais moi, j'ai jamais essayé, en ce qui me concerne en tant que scribe, et j'ai jamais essayé de copier Beethoven ou Mendelssohn. J'ai dit simplement quel type de relation, comment ça sonnait, comment était l'interaction, comment ça s'organisait, les discours, bon, tous ces types de choses. Oui, ils étaient là. Et moi, je pense avoir jamais oublié que c'était du tango.
C'est avec Al declinar el día, quand le jour décline, une composition de Gustavo Beitelmann, interprétée par le Quinteto Respiro, que prend fin ce 4e épisode du grand entretien consacré aux pianistes et compositeurs argentins. Cette série d'émissions est disponible à la réécoute et en podcast sur francemusique.fr. Équipe de réalisation, Pierre Monteil à la prise de son, Tahar Bouklifa au mixage, Marie-Ferdinand à la documentation et Lionel Quentin à la réalisation. La suite de ce portrait de Gustavo Beitelmann, demain sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.